RFI, 20h à Paris, 19h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Soutien européen fourni pour Volodymyr Zelensky après son échange extrêmement tendu hier à la Maison Blanche avec le président américain. Volodymyr Zelensky, qui est arrivé à Londres avant le sommet de demain avec les dirigeants européens, il a rencontré le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a insisté sur l'absolue détermination du Royaume-Uni à soutenir Kiev dans sa guerre face à la Russie. Ce samedi, dernier jour de la première phase de trêve entre Israël et le Hamas. Et les négociations pour la deuxième phase n'ont toujours pas abouti. Alors que les États-Unis viennent d'approuver une nouvelle vente d'armes et de munitions à Israël. À la Réunion, l'alerte rouge a été levée. Le passage du cyclone Garance a fait au moins 4 morts. Le président de la Chambre d'agriculture parle de destruction et dégâts sans précédent. Le soutien de Donald Trump reste crucial pour l'Ukraine, a affirmé aujourd'hui le président Volodymyr Zelensky après son échange extrêmement tendu hier à la Maison Blanche avec le président américain. Malgré un dialogue difficile, nous restons des partenaires stratégiques. Et il s'est dit toujours disposé à signer l'accord sur les minerais avec les États-Unis. L'épisode de ce vendredi a en tout cas suscité de nombreuses manifestations de soutien des dirigeants européens au président ukrainien. Ce samedi, par exemple, la ministre allemande des Affaires étrangères a appelé les Européens à s'engager plus fermement que jamais aux côtés de l'Ukraine. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est à Londres. Avant le sommet européen de demain qui devrait être consacré à la stratégie européenne dans les discussions de paix, il vient de rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer, un rendez-vous qui a été avancé. Sarah Menaille, vous êtes notre correspondante dans la capitale britannique. Keir Starmer a tenu à rassurer le président ukrainien du soutien indéfectible du Royaume-Uni.
Effectivement, vous êtes le bienvenu à Downing Street. Vous avez le soutien des Britanniques à travers tout le Royaume-Uni et nous sommes absolument déterminés à vous soutenir et à obtenir une paix durable pour l'Ukraine. C'est par ces mots que le Premier ministre britannique a accueilli Volodymyr Zelensky ce samedi à Downing Street. Ambiance très différente de l'accueil réservé hier au président ukrainien à la Maison Blanche. Rassuré et réaffirmer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine, c'était là toute la mission de Keir Starmer, lui qui l'a dit et redit après l'altercation même de la Maison Blanche. Le Royaume-Uni se tient aux côtés de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a 3 ans. Alors aujourd'hui, le Premier ministre britannique a à cœur d'incarner un continent européen qui fait bloc derrière le président ukrainien. Keir Starmer ici a un rôle important à jouer, celui de médiateur, de facilitateur. C'est aussi pour lui un test diplomatique d'ampleur. A-t-il les épaules pour cela? C'est toute la question que se pose aujourd'hui la presse britannique. Une presse qui met aussi en avant la relation spéciale qu'entretient le Royaume-Uni avec les États-Unis. Estime que Donald Trump pourrait prêter une oreille lorsqu'il s'agit de Keir Starmer que lorsqu'il s'agit d'autres dirigeants européens. Donc pour rétablir sa relation avec le président Trump, eh bien Volodymyr Zelensky aurait avec Keir Starmer une vraie carte à jouer ici ce week-end à Londres.
Merci Sarah Menaille en direct de Londres. Sur le terrain, la Russie revendique la prise de 2 villages dans l'est de l'Ukraine et accuse Kiev d'avoir à nouveau attaqué le gazoduc Turk Stream qui achemine le gaz russe vers l'Europe. Une attaque de drone qui n'aurait pas fait de dégâts. Après l'affrontement verbal hier à la Maison Blanche, Emmanuel Macron s'est entretenu à la fois avec Volodymyr Zelensky et avec Donald Trump. Avant cela, le président français s'était dit prêt à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne, alors que le futur chancelier allemand Friedrich Merz juge nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario, scénario d'un OTAN dépourvu de la garantie de sécurité américaine, y compris nucléaire. En tout cas, un parapluie nucléaire européen, l'idée divise la classe politique en France. Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national, estime ainsi que la dissuasion nucléaire de la France doit rester française et qu'on ne doit pas la partager. Le PKK déclare un cessez-le-feu, c'est ce qu'affirme aujourd'hui le comité exécutif du Parti des travailleurs du Kurdistan, basé dans le nord de l'Irak. Le groupe armé approuve l'appel de son chef historique, Abdullah Öcalan, lancé avant-hier, appel à cesser les hostilités avec la Turquie et ouvrir des discussions pour se dissoudre. Les 4 décennies de conflit entre le gouvernement et le groupe armé ont fait au moins 40 000 morts. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la première phase de la trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Et les négociations pour la deuxième phase, qui ont lieu en ce moment au Caire, n'ont toujours pas abouti. Un retour de la guerre serait catastrophique, a alerté ce samedi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce samedi, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a insisté « Israël ne se laissera pas intimider par le Hamas ». Le mouvement islamiste palestinien a publié une nouvelle vidéo de ce qui semble être un groupe d'otages israéliens à Gaza avec ce message « Seul un accord de cessez-le-feu les ramènera vivants ». Israël, de son côté, continue d'être soutenu et armé par les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Mark Rubio vient d'approuver une nouvelle vente d'armes, de munitions et d'autres équipements à hauteur de 3 milliards de dollars. Mathias Troud.
Sur ces 3 milliards de dollars, 2 sont consacrés à près de 40 000 bombes Predator et Mark 84. Ces bombes d'une tonne ont fait des ravages pendant 15 mois de guerre à Gaza. Livraison estimée en 2026, mais certaines bombes pourraient être livrées immédiatement si le stock américain le permet. Viennent ensuite des bulldozers et d'autres équipements de démolition qui seront livrés en 2027. Il y en a pour 300 millions de dollars. Puis les 700 millions restants concernent d'autres bombes, ogives et kits de guidage, mais cette fois pour 2028. Une manière, selon le Pentagone, de, je cite, « renforcer la défense du territoire israélien et ses moyens de dissuasion ». Cette nouvelle vente d'armes a été faite en catimini. Le département d'État n'a informé le Congrès de cette vente que tard hier soir, au nom de l'urgence. La vente était donc déjà actée. La tradition veut pourtant que les commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre soient consultées.
Toujours aux États-Unis, le président américain a signé un nouveau décret, et pas des moindres. La Maison-Blanche annonce que Donald Trump va faire de l'anglais la langue officielle des États-Unis au nom de l'unité et de la cohésion nationale. Concrètement, les agences fédérales n'auront plus l'obligation de fournir des services dans d'autres langues, comme l'espagnol, tout en restant quand même autorisées à le faire. Une occasion manquée pour l'essayiste Romuald Ciura, qui regrette que les deux langues principales des États-Unis, l'anglais et l'espagnol, ne soient pas reconnues ensemble.
Légiférer, comme le président Trump vient de le décider, et faire de l'anglais la langue officielle, c'est discutable. Cela aurait été une excellente chose de le faire dès le départ, de le faire encore dans les années 50, 60, voire 70. Cela aurait permis effectivement d'éviter une société éclatée qui est celle des États-Unis aujourd'hui. On ne parle plus d'une société multiculturelle heureuse, non pas simplement des quartiers, mais des villes entières. On bannit l'anglais de leur commerce, de leurs institutions, etc. Une très grande partie de la population américaine s'exprime essentiellement en espagnol. Si on voulait aller dans le sens de l'histoire, le plus courageux serait de légiférer, mais en faisant des États-Unis un État multilinguistique avec deux langues, comme cela est le cas au Canada, où d'ailleurs cela fonctionne très bien.
Romuald Ciura, joint par Igor Gauquelin. À La Réunion, le bilan s'est alourdi. Le passage du cyclone Garance a fait 4 morts et 5 blessés. L'alerte rouge a été levée. Le président de la Chambre d'agriculture fait état de destruction et dégâts sans précédent. Le nord et l'est de l'île ont été les plus touchés, entre autres par les pluies très fortes et les coulées de boue. L'ouest n'a pas non plus été épargné par les crues. Plus de 310 000 habitants sont toujours privés d'eau potable et 160 000 d'électricité sur l'île. Et un peu moins de 1 000 personnes sont toujours réfugiées dans des centres d'hébergement. RFI 6h08 à Nouméa, une grande nouvelle. La Nouvelle-Calédonie a réussi à éliminer la dengue de son territoire. Aucune épidémie n'a eu lieu depuis 2019 et c'est grâce au Wolbachia. Les explications à Nouméa de Charlotte Manvi.
Voilà 5 ans qu'aucun foyer de dengue n'a été détecté en Calédonie, et ce grâce à l'introduction d'une bactérie, Wolbachia, qui empêche le moustique de transmettre la maladie. Une bactérie qu'il suffit d'inoculer aux insectes pour qu'ils contaminent leurs congénères. Nadège Rossi, directrice du programme Wolbachia Nouvelle-Calédonie.
On les élève en laboratoire et puis on va les mettre dans des petits contenants qu'on va aller ouvrir sur le terrain à différents points. Ou alors on peut créer un gîte larvaire. On a un contenant, on va mettre des œufs de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia à l'intérieur et au bout de 15 jours, de ces petits pots vont sortir des moustiques.
7 ans après le début du programme, plus de 90% des moustiques sont porteurs de la bactérie, mettant un terme aux épidémies de dengue. Une victoire de santé publique pour Marc Jouan, le directeur de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie.
C'est une belle réussite parce que c'est une maladie qui a des séquelles parfois extrêmement graves et qui peut conduire à des décès. Ça a aussi un poids en termes de santé publique parce que ça peut surcharger un secteur hospitalier qui parfois est démuni. Et depuis 2019, malgré les crises Covid, malgré les épidémies de leptospirose, le secteur hospitalier a été épargné.
Peu coûteux, le programme a aussi permis d'arrêter totalement les épandages de pesticides polluants et potentiellement nocifs pour la santé. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
En rugby, le Stade français l'a emporté à domicile cet après-midi face à La Rochelle 22-17, ce qui permet aux Parisiens de quitter la dernière place du top 14 à laquelle ils étaient tombés la semaine dernière. RFI, 20h10 à Paris, 19h10 en temps universel.